Le journal, Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir. Yverdon disputera ses trois premières rencontres de Super League au stade de la Maladière. Les autorités de la ville et du canton de Neuchâtel ont donné leur accord, mais les matchs se joueront à huis clos. Une charte pour venir à bout des tensions dans l'hôtellerie-restauration. Gastro Neuchâtel, Hôtellerie Suisse Neuchâtel-Jura et le service de la consommation et des affaires vétérinaires ont présenté un guide de 13 règles pour améliorer leur collaboration lors des contrôles dans les établissements. Et la nouvelle fontaine ludique du bois du Petit Château à la Chaux-de-Fonds se fait attendre. Les autorités cherchent encore des solutions pour respecter le budget. Les nuages occuperont encore le ciel de la région. Demain matin, l'après-midi, le temps sera partagé entre éclaircies et possibles orages. Il continuera de faire chaud. Yverdon Sport déménagera à Neuchâtel l'espace de 3 matchs. Fraîchement promu en Super League de football, le club nord-vaudois était à la recherche d'une solution dans l'attente de la mise aux normes de ses installations. La ville et le canton de Neuchâtel ont donné leur accord pour accueillir le néo-promu au stade de la Maladière. Mais les rencontres se disputeront à huis clos en vue d'éviter des débordements de supporters. Ces conditions sont draconiennes, mais elles n'ont pas fait l'objet de longues discussions. Le conseiller d'État en charge de la sécurité, Alain Ribaud.
Elles n'ont pas été grandement discutées car pour Yverdon, c'était surtout le souci de trouver un endroit d'hébergement et puis ensuite une compréhension, d'autant que la période de fin août, début septembre est très chargée pour la police neuchâteloise qui doit commencer à ménager ses forces pour la fête des vendanges, mais qui a encore cette année la Baudrisia, la braderie, c'est des gros dispositifs. Il faut quand même de temps en temps que les policiers aient des congés et l'un dans l'autre, on n'arrive pas encore à accepter des matchs en plus de ceux de Xamax. On ne peut pas imposer des conditions qui seraient coûteuses pour la population neuchâteloise. Donc rendre service, oui, mais pas aux frais excessifs de la population neuchâteloise.
Et entre Sion, Lausanne et Bienne, les dirigeants d'Yverdon Sport avaient évoqué plusieurs sites susceptibles d'accueillir leur équipe. Le temps de procéder à la mise aux normes de leurs installations d'ici le 23 septembre. Selon le président du club, Mario Di Pietrantonio, Neuchâtel ne constituait pas encore l'ultime solution.
On pouvait encore aller jouer à Lausanne. Là aussi, le canton, la ville d'Yverdon se sont aussi beaucoup mobilisés ces trois derniers jours. Mais c'est vrai que le fait que SLO soit aussi en Super League, Lausanne Sport et Yverdon, ça aurait peut-être fait un petit peu beaucoup les week-ends. Une grosse surcharge, j'imagine, de la police cantonale et municipale. Même, je crois, avec des appuis de la police d'Yverdon. Donc, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc, très, 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 très content de venir à Neuchâtel. Et encore une fois, mille fois merci.
Des propos recueillis par Marcel Neuenschwander, Mario Di Pietrantonio souligne que la décision de jouer à Neuchâtel doit encore être validée par la commission des licences de la Swiss Football League. Le prochain championnat de Super League prendra son envol le week-end des 22 et 23 juillet, aux mêmes dates que le championnat de Challenge League. Et puis la suite de l'actualité sportive, ce sera dans le point sport. 13 règles à suivre pour vivre des contrôles plus sereins. Le service de la consommation et des affaires vétérinaires, Hôtellerie Suisse Neuchâtel-Jura et Gastro Neuchâtel ont présenté ce matin une charte de bonnes pratiques destinée aux différents acteurs du milieu de l'hôtellerie-restauration. L'objectif est de mettre un terme aux tensions présentes depuis plusieurs années au moment des contrôles dans certains établissements. Selon le vice-président de Gastro Neuchâtel, David May, il était temps d'agir.
L'hôtelier-restaurateur n'a pas la même réalité qu'un contrôleur du SCAV. Donc on a dû aussi leur expliquer notre réalité du terrain, pas venir à 11h parce que pour nous c'est compliqué, on a un service qui va commencer. Par contre, il peut venir avant. Et de l'autre côté, le SCAV nous dit, ben ouais, mais l'établissement ouvre à 11h, donc on vient à 11h. J'ai dit, ben voilà. Donc il y a eu des discussions et puis on a réussi à trouver des bons compromis. Puis dans ces 13 points, on a des points qui partagent vraiment la problématique de chacun et puis qu'on va appliquer à futur.
Cette charte, ça montre qu'on était arrivé quand même dans une sorte d'impasse.
Le jour où la police, elle vous arrête, même si vous n'avez rien fait, vous êtes dans votre bon droit, il y a toujours une petite appréhension, il y a peut-être quelque chose. Et on a exactement le même phénomène dans la restauration. Quand un contrôleur arrivait, il y a cette petite appréhension. Alors, la charte ne va pas effacer cette appréhension. Mais elle va permettre peut-être d'avoir des réalités un tout petit peu différentes dans le contrôle et dans l'acceptation d'avoir un contrôle.
Des propos recueillis par Guillaume Joly. De son côté, le chef du service de la consommation et des affaires vétérinaires, Pierre-François Gobat, estime que la mission du SCAV ne doit pas fondamentalement changer, mais qu'il est nécessaire de transformer la manière de réaliser ces contrôles. La nouvelle fontaine ludique du Bois du Petit Château se fait attendre à La Chaux-de-Fonds. Le projet intitulé Islandis aurait dû voir le jour l'été dernier, mais en raison de problèmes budgétaires et de livraison de matériaux, sa concrétisation a été repoussée à l'été 2024. Cette nouvelle fontaine ludique est devisée à 550 000 francs. Les contours du projet pourraient encore bouger. Théo Brugnard, conseiller communal en charge de la culture.
Quand on a essayé de préciser les coûts de cette fontaine ludique, il y a maintenant un peu plus d'une année, on s'est rendu compte que les coûts des travaux, un peu comme pour l'ensemble des coûts, avaient largement augmenté, notamment tout ce qui concernait la filtration de l'eau. Depuis lors, on a cherché à simplifier le projet, et puis on est encore dans cet affinement des coûts.
Ça veut dire qu'on réduit l'infrastructure?
C'est justement toutes ces réflexions, c'est regarder si on peut trouver d'autres façons de filtrer l'eau. Il y a toutes sortes de démarches qui ont été entreprises. Et puis finalement, la question c'est, est-ce qu'on peut réduire un peu le projet tout en maintenant l'esprit ludique de cette fontaine et puis la dynamique qu'on veut pour le museau?
Qu'est-ce qui va passer à la trappe?
Alors on ne sait pas encore, hein, le projet doit encore être finalisé, mais vraiment l'idée c'est de maintenir ces jets et puis l'esprit ludique. On verra si l'un ou l'autre jet ou la cascade, je ne sais pas, on verra ça, devra être réduite.
Des propos recueillis par Claire Viget, les autorités chaudefonnières espèrent pouvoir commencer les travaux cet automne pour une mise en service à l'été 2024. En attendant, l'ancienne installation est toujours en fonction et la qualité de l'eau est contrôlée quotidiennement. Une odeur particulière a envahi le centre d'art Neuchâtel. Le CAN accueille une exposition qui explore la relation entre l'homme et la plante de tabac, intitulée Reverse Engineering. L'artiste péruvienne Jimena Garrido Leca s'est laissée inspirer par l'usine de production de cigarettes présente sur le littoral neuchâtelois. Elle a notamment recréé la première machine à rouler des cigarettes en utilisant une pâte faite de feuilles de tabac et de cendres. La curatrice de l'exposition, Liza Trottet.
C'est justement son travail sur le matériau de manière générale qu'on trouvait intéressant. Elle a déjà travaillé sur la coca par exemple, la plante, ou alors sur le cuivre qui est un matériau très très important au Pérou, dans son pays. Et elle prend souvent ces matériaux bruts, où elle part de cette idée brute du matériau et elle explore les différentes relations qu'on développe avec ces matériaux. Par exemple, en voyant cette usine de confection de cigarettes à Neuchâtel, ou cette histoire qu'il y a avec cette usine et cette ville, elle a fait un lien avec des pratiques et des traditions liées à la plante de tabac et quelque chose est sorti de ça. Et c'est ça qui nous intéressait, c'est vraiment cette question de mélanger l'idée occidentale et peut-être l'idée aussi de consommation qui est très très claire dans nos sociétés et une manière en fait différente de percevoir des plantes ou de la matière ou du matériau qui est plus ancestral, plus traditionnel et plus artisanal.
L'exposition Reverse Engineering est à voir dès demain et jusqu'au 6 août au CAN à Neuchâtel. Le projet de capitale culturelle suisse figure dans le message du Conseil fédéral présenté aujourd'hui. C'est de bon augure pour La Chaux-de-Fonds qui vise ce statut et qui pourrait être la première ville à l'obtenir. Cette mention apparaît dans le programme fédéral d'encouragement à la culture mis en consultation. La Confédération prévoit de soutenir ce secteur à hauteur d'1 milliard de francs durant les années 2025 à 2028, un montant sur lequel le Parlement devra voter. Ce programme met l'accent sur la transformation numérique de la culture, sur le soutien au patrimoine bâti de qualité ou encore sur la mise en place d'une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels. Le ministre de la Culture, Alain Berset.
La pandémie de Covid a révélé la précarité du secteur culturel. Elle a mis en évidence la nécessité d'assurer des conditions de travail qui soient aussi bonnes que possible pour les professionnels de la culture, avec des emplois à durée déterminée, par exemple, avec le cumul de plusieurs emplois, avec les combinaisons aussi de plusieurs formes de travail, ce qui rend la situation assez complexe. Et ce qui a d'ailleurs comme conséquence, souvent, une protection sociale réduite, ce qui est naturellement un problème pour l'ensemble de la société, pas seulement pour les personnes concernées. Et nous souhaitons pouvoir mieux adresser ces questions et pouvoir y remédier. C'est naturellement lié aussi aux questions de rémunération et d'intégration dans ces rémunérations de toute la réflexion sur la prévoyance.
Des propos recueillis par Serge Jubin. En France, l'état de santé des enfants blessés à l'arme blanche à Annecy s'améliore. La fillette hospitalisée à Genève est hors de danger. Et puis les trois autres jeunes victimes sont, elles, prises en charge à Grenoble, où s'est rendu aujourd'hui le président français Emmanuel Macron et son épouse. Quant à l'auteur présumé de cette attaque qui a fait 6 blessés en tout, il a été maintenu en garde à vue. Il n'a pour l'heure donné aucune explication à son geste, mais le mobile ne semble pas d'ordre terroriste selon le parquet d'Annecy. Et c'est du jamais vu pour un ancien président américain. Donald Trump a été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison Blanche. Il est notamment accusé d'avoir gardé des documents classifiés dans des endroits non autorisés et non sécurisés. Cette inculpation est une nouvelle embûche pour le républicain qui cherche à reconquérir la présidence des États-Unis l'an prochain. En mars, il avait déjà été confronté à la justice pour des accusations de fraude comptable.
RTN, il est 18h10.
Sport. Les duels de génération sur le court central de Roland-Garros. Novak Djokovic affronte Carlos Alcaraz en demi-finale des internationaux de France de tennis. Et c'est actuellement 2-0 en faveur de Djokovic dans le quatrième set. Le Serbe a enlevé la première manche 6-4 ainsi que la troisième sur le score de 6-1. Mais le jeune Espagnol de 16 ans, son cadet, s'est adjugé le deuxième set 7-5. Et puis l'autre demi-finale opposera ensuite le Norvégien Casper Ruud à l'Allemand Alexander Zverev. En cyclisme, Jonas Vingegaard a encore consolidé sa première place en tête du classement général du Dauphiné libéré. Le Danois compte 1 minute 10 d'avance sur l'Australien Ben O'Connor à la faveur d'une sixième étape qui s'est achevée en montagne. La victoire du jour est revenue à l'Allemand Georg Zimmermann. Et puis c'est la reine de la descente en VTT. Camille Ballanche entame la saison 2023 demain à Lenzerheide dans les Grisons où se tient la première manche de la Coupe du Monde. La Locloise enchaînera le week-end suivant à Leogang en Autriche, une piste sur laquelle elle demeure invaincue depuis 3 ans. Camille Ballanche est détentrice de la Coupe du Monde de la spécialité. Si elle est venue sur le tard à la descente VTT, elle est désormais la fille à battre. Âgée de 33 ans, elle estime malgré tout pouvoir encore s'améliorer. Camille Ballanche.
Tout le team, on continue vraiment à s'améliorer chaque année. On bosse sur tous les aspects avec le bike, les suspensions, les réglages aussi, avec notre corps. Du coup, c'est vraiment motivant de voir que chaque année, on arrive encore à s'améliorer et puis à pousser dans beaucoup de domaines. Donc, tant que j'aurai ce sentiment-là, j'aurai envie de continuer.
Ce titre, ces Coupes du Monde, ils vous ont permis de grandir et aussi peut-être de bénéficier d'un encadrement plus solide. On vit de la descente VTT maintenant?
Oui, surtout si on est dans le top 3, on vit bien. Le plus dur, c'est de rentrer dans ce top 10. Une fois qu'on rentre dans le top 10 et qu'on a un team et qu'on a la structure qui va avec, on peut vraiment que se focusser là-dessus. Et puis je dirais que celles qui sont vraiment constamment dans le top 5, elles vivent bien de ce sport.
Camille Ballanche qui répondait à Marcel Neuenschwander. Et puis c'est l'hécatombe dans l'élite du basketball masculin helvétique. Après Boncourt, Suisse Centrale a décidé à son tour de se retirer du championnat de première division. Le club lucernois évoluera en Ligue B dès la saison prochaine. Il l'a annoncé dans un communiqué précisant vouloir se concentrer sur la formation de la relève. Très belle soirée.